Bonjour et bienvenue à cette édition de Radio Linguistica qui porte le titre « Clarté et élégance, le guide de rédaction vient de paraître ». Eh bien, le département français a exécuté un travail d'Hercule en rédigeant ce guide de rédaction de la Commission. Ce n'est point une simple traduction du Commission Style Guide, mais un guide propre aux Français, avec 12 règles d'or et 10 principes de rédaction clairs et beaucoup d'autres choses. Si le but déclaré de l'équipe a été de promouvoir une rédaction alliant rigueur, cohérence et clarté, mais aussi qualité, style et élégance, l'œuvre même remplit tous ces critères. Je souhaite la bienvenue à notre collègue Benjamin Hayden qui va nous présenter ce guide. Bonjour Benjamin.
Bonjour Corrad, merci pour cette invitation.
Donc, qu'est-ce que c'est que ça, ce guide de rédaction de la Commission et comment est-ce qu'il a, quel a été l'historique de ce projet, le contexte?
Alors, vous l'avez dit en introduction, ça a d'abord été une publication en anglais. En 2019, le Commission Style Guide a été publié et diffusé par le secrétariat général au sein de toute la Commission européenne pour promouvoir une communication interne et externe efficace en anglais par des anglophones et beaucoup par des non-anglophones, bien sûr. Très vite, le secrétariat général a demandé aussi à ce qu'il existe une version française de ce guide. Il s'est tourné vers la DG Traduction, vers le département français de la DG Traduction. Et ce guide sort après 2 ans de gestation, on pourrait dire. Nous avons travaillé avec une équipe de 4 collègues directement impliqués dedans. Et puis indirectement, je dirais que ça doit concerner 25-30 collègues de la Commission et d'autres institutions, on va y revenir, qui ont travaillé là-dessus une partie de leur temps pendant 2 ans.
Donc, quelles sont les différentes parties de ce guide?
Alors, ce guide se veut vraiment un outil pratique. Ce n'est pas un document universitaire, c'est vraiment un document de travail. Il y a bien sûr une petite introduction un peu protocolaire, mais tout de suite, on tombe dans le concret avec 12 règles d'or pour un style clair et cohérent. C'est un petit peu, s'il ne faut lire qu'une chose dans ce guide, je dirais que c'est ce chapitre-là. Ces 12 questions de base qui peuvent intéresser les rédacteurs en français à la Commission européenne, avec des questions très pratiques, pratico-pratiques. Quand faut-il utiliser des majuscules? Quand faut-il utiliser des minuscules? Quand faut-il utiliser des traits d'union? Comment écrire euro? Est-ce qu'on écrit en toutes lettres? Est-ce qu'on écrit le symbole? Est-ce que euro, 12 euros, est-ce qu'il faut un S à euro? Comment citer les États membres? Dans quel ordre? Sous une forme longue, une forme courte? Comment utiliser des acronymes? Vraiment des petites questions pratiques pour répondre aux interrogations quotidiennes des rédacteurs et des rédactrices. Alors, une deuxième partie du guide porte sur la rédaction claire, ce qui s'appelle le clear writing en anglais. 10 principes. Utilisation de mots simples, éviter le jargon. Utiliser de préférence la voix active plutôt que la voix passive. Utiliser des phrases les plus courtes possibles. 10 principes essentiels qui correspondent aux formations que nous organisons par ailleurs dans la Commission et parfois même dans d'autres institutions, qui correspondent au premier niveau de formation. C'est vraiment le niveau de base permettant de clarifier la communication. Et puis, pour ceux qui ont le temps et l'envie d'aller un peu plus loin, à partir de la page 20, on entre vraiment dans le vif du sujet, dans le guide de rédaction pour les publications en français. Donc ce guide est avant tout destiné aux publications internes et externe, plutôt grand public. Nous ne traitons pas ici des textes législatifs. Pour cela, il existe un outil, une bible, le code de rédaction interinstitutionnel. Ici, on se concentre sur la commission, sur ses spécificités et sur sa communication interne et externe. Alors, ce guide a différents chapitres, sous-chapitres aussi, porte sur l'utilisation des verbes dans nos besoins. C'est-à-dire, par exemple, dans nos besoins, nous utilisons très peu le subjonctif plus que parfait, par exemple. Donc, nous n'en avons pas parlé. Nous nous concentrons sur les choses pratico-pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais ça ne nous a pas paru nécessiter un chapitre entier. Sur l'utilisation des temps, des verbes dans les procès-verbaux, dans les comptes rendus, dans des documents vraiment administratifs. Quelques conseils pratiques sur les faux amis, les interférences linguistiques. Vous savez que en français, et spécialement en France plutôt qu'en Belgique, il y a une réticence à utiliser des anglicismes ou des calques de l'anglais. Donc on propose des solutions pratiques, réalistes, souvent des termes qui existent tout à fait dans le lexique et qu'on peut réhabiliter ou remettre en valeur plutôt que d'utiliser des anglicismes. Et ce n'est pas tellement une chasse aux anglicismes, c'est surtout une chasse aux faux amis, justement, où l'emprunt d'un terme anglais peut transformer la communication et faire passer un mauvais message. Voilà, il y a d'autres chapitres sur les préfixes, sur les majuscules, les minuscules, les nombres, les dates. Ce n'est pas nécessairement des chapitres qu'il faut lire in extenso, spontanément. Mais c'est là qu'on trouvera des réponses à toute une série de questions utiles. Et nous avons de premiers retours de collègues qui nous remercient parce qu'ils nous disent que ça a déjà répondu à des questions qu'ils se posaient. C'était vraiment l'objectif premier de ce guide. Il y a des choses parfois très aride, hein, sur des codes ISO, sur des dénominations abrégées de traités. Mais voilà, ce sont des choses dont nous avons besoin dans notre travail quotidien. Comment faire référence à un journal officiel, à un traité, à une législation, comment faire référence à la jurisprudence, des choses qui peuvent être utiles dans toutes les directions générales ou dans tous les services de la Commission. Et là, on a des exemples en français. Parce que bien souvent, nous n'avions d'exemples de référence dans des publications du secrétariat général qu'en anglais. Et donc, ça posait des problèmes. On disait, est-ce qu'il faut traduire, utiliser les recommandations anglaises et les traduire en français, ou est-ce qu'il y a une spécificité française? Et bien, on voit que parfois, souvent, il y a une spécificité française. Ensuite,
Donc,
oui.
si j'ai un problème particulier, par exemple, je ne sais pas si je dois écrire 12 en lettres ou en chiffres.
Voilà.
Alors, je le trouve facilement avec un registre dans le guide.
Voilà, exactement. Donc, il y a une table des matières qu'on a essayé de détailler le plus possible. Et puis, bien sûr, il y a la fonction de recherche dans le document PDF, contrôle F, qui permet de rechercher des mots, des chaînes de caractères. Voilà, c'est vraiment le genre de réponse qu'on en trouvera. Quand utiliser des lettres, quand écrire en chiffres? En fonction du nombre, de l'importance du nombre, en fonction du type de document aussi. Les recommandations ne sont pas toujours les mêmes. S'il s'agit de publications web, de publications plus officielles, de courrier à des ministres par exemple, où il y a la différence de registre, des choses comme ça. Oui.
Je vous recommande à tous de lire la page sur DGTnet qui présente ce guide. C'est notre collègue Laurence Pradura qui l'a écrite. Et là, vous trouverez aussi le lien, évidemment, vers les guides et aussi un quiz avec des exemples où il faut trouver la version correcte. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une faute avec il en va de, il y va de. Là, j'ai appris quelque chose. Et là, j'ai vu aussi qu'on a cité des autorités, donc le Petit Robert et l'Académie française. Alors, est-ce que vous vous êtes basé sur ces autorités ou est-ce qu'il y a eu des divergences et s'il y a eu des divergences, pourquoi?
Oui, ce sont des autorités que nous utilisons en tant que traducteurs, réviseurs, rédacteurs quotidiennement, sous forme papier ou sous forme électronique. Donc, nous utilisons des dictionnaires Larousse, Robert. Certains collègues ont une préférence pour un, pour les deux. Nous utilisons des grammaires de référence. Nous en avons une dizaine, j'allais dire toutes de valeur égale, ou qui ont des spécificités. Certaines grammaires sont plus universitaires, mais parfois un peu plus travaillent sur des corpus de langue plus littéraires. Alors que il y a des documents plus modernes maintenant avec l'utilisation de corpus électroniques qui permettent de travailler avec un état de langue plus récent, de se concentrer sur les 20 dernières années, sur l'utilisation dans la presse de qualité, par exemple. Ça donne un éclairage utile aussi. Nous consultons le site de l'Académie française, les sites de terminologie officielle en Belgique et surtout en France, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens et de ressources disponibles. Il y a certaines divergences, comme il y a des divergences entre ces références, des différences orthographiques entre certains dictionnaires. Certains dictionnaires admettent des variantes de pluriel, n'ont pas la même façon de former le pluriel de mots italiens ou de mots latins. Il y a des petites différences de genre entre quelques mots. Quelques dizaines de mots ont des genres fluctuants entre dictionnaires. Des différences d'orthographe. Parfois, certains dictionnaires soudent des préfixes. Parfois, certains les écrivent avec un trait d'union. Il y a une relation différente. Le Larousse, par exemple, intègre très vite chaque année des néologismes, plus vite que le dictionnaire Robert. Parfois trop vite, parce que 5 ans après, on se rend compte qu'un terme n'est plus utilisé. Et régulièrement, des termes disparaissent des dictionnaires Larousse. Mais c'est un dictionnaire qui est plus réactif à l'actualité. Il a une nouvelle version chaque année, ce qui n'est pas le cas du Robert. L'Académie française s'est prononcée récemment contre les termes enseignement en présentiel ou enseignement en distanciel. Qu'ils estiment des calques abusifs de l'anglais. Bon, nous les utilisons dans nos textes. Nous les avons trouvés dans des sites des administrations nationales d'éducation, dans la presse de qualité. Donc, nous, pour cela, pour ce conseil-là, nous ne suivons pas la recommandation de l'Académie française. Mais voilà, le guide de rédaction de la commission n'a pour seule ambition que de recommander des usages au personnel de la commission dans le cadre de son activité professionnelle. Nous n'entendons pas régenter l'usage de la langue dans la sphère privée, dans la sphère artistique ou littéraire. On conçoit qu'il y a différents domaines de langue. Ici, le but est de construire un style maison. Donc, parfois, nous dérogeons à certaines règles. En typographie aussi, nous respectons presque les règles de l'imprimerie nationale française, mais par exemple, nous soudons toute une série de signes typographiques. Le point-virgule, le double point, les guillemets sont soudés. On garde la forme de guillemets française, mais nous n'avons pas d'espace entre le texte et les guillemets. Donc voilà, il y a des spécificités propres à l'Europe qui sont parfois le résultat de compromis, parfois ont des explications historique lié à la composition typographique d'avant l'informatique et qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, la ponctuation ou la typographie sont arbitraires. Ce sont des règles qui ont été décidées et il y a toujours eu plusieurs normes en langue française comme dans d'autres langues. L'Académie française a une valeur de sagesse, j'ai envie de dire, mais elle est principalement composée de non-linguistes. Et donc, il y a de fréquents désaccords entre grammairiens et académiciens ou entre lexicographes et académiciens. Donc, c'est un dialogue sur la langue.
Eh bien, évidemment, les rédacteurs du guide, les rédacteurs et les rédactrices n'ont pas pu s'en occuper toute la journée, tout le temps, parce qu'ils avaient aussi leur travail à faire, leur travail normal de traduction. Alors, comment ce travail d'Hercule a-t-il donc été organisé? Et comment est-ce que vous avez trouvé tous ces exemples qui illustrent comment faut faire ou pas faire? Est-ce que, par exemple, les mauvais exemples, comment pas faire, sont-ils des exemples que vous avez trouvés quelque part?
Oui, effectivement. Donc, vous le mentionnez, il y avait des rédactrices et des rédacteurs, trois rédactrices et moi. Nous nous sommes répartis le travail en découpant les différents chapitres. Chacun, chacune était responsable d'un chapitre. Il s'agissait de tradapter, on pourrait dire, donc de traduire, d'adapter, de rédiger par rapport à l'original anglais un équivalent français. Pour certains chapitres ou certains morceaux de chapitres, on a pu traduire, mais presque toujours, il a fallu au moins adapter, parfois réécrire complètement. Nous avons travaillé là-dessus pendant 2 ans, mais certainement pas à temps plein. On y consacrait 1 ou 2 jours par semaine. Et puis, le reste du temps, nous remplissions nos fonctions normales de traduction, révision, évaluation de traduction freelance. Correction de documents originaux français, correction de traduction. Nous donnons également, pour certains d'entre nous, des activités de formation en rédaction claire, pour lesquelles nous sommes amenés à analyser des documents originaux, en français de différentes directions générales. Donc, tous les exemples que nous citons sont des exemples que nous avons rencontrés, pendant ces 2 ans et aussi précédemment. Parce qu'il existait déjà au sein du département français de la DG Traduction un ensemble de documents, de références plus ou moins formalisés qui s'appelaient guides, conseils utiles, vade-mecum, des petites erreurs qu'on avait repérées, des tendances. Des erreurs qui étaient passées de freelance ou des petites spécificités propres à la langue belge administrative qu'on veut gommer pour des textes destinés à la France. Voilà, toute une série de conseils utiles, des documents qui dataient parfois d'une dizaine d'années, voire plus. Et donc, c'est vrai que nous sommes 4 collègues à avoir rédigé ce guide. Mais il a été validé par notre responsable qualité, par notre terminologue. Nous avons sur certains points consulté des collègues spécialistes d'un domaine. Donc en réalité, c'est tout le département français de la DG Traduction qui a plus ou moins participé à l'élaboration de ce guide ou à sa validation. Donc, parfois, nous faisions relire certains chapitres.
Bon, ce guide s'appelle guide de rédaction de la Commission, pas de l'Union européenne, mais pendant votre travail, vous avez pu vous baser sur d'autres guides des autres institutions du Parlement ou du Conseil, des comités par exemple?
C'est vrai. Oui, nous avons eu accès à certains documents du Conseil et du Parlement, récents ou plus anciens. Nous avons pris contact avec certains collègues parce que nous avons repéré de petites divergences sur la manière d'écrire une instance onusienne, par exemple, tout en majuscule ou avec seulement une majuscule initiale, sur le féminin. De certains noms de fonctions, on avait des questeurs et des questrices dans certaines institutions, sur l'utilisation de majuscules initiales dans certains contextes pour des présidents ou des secrétaires, par exemple. Alors, ça a été l'occasion d'uniformiser ou d'harmoniser certaines pratiques dans un sens ou dans l'autre. Mais on a essayé de ne pas réfléchir en termes d'antagonisme entre institutions, mais d'aller vers une plus grande harmonisation en essayant d'avoir une logique et d'éviter le plus possible les exceptions, qui sont de manière traditionnelle propres au génie de la langue française, mais ça finit par encombrer pas mal la réflexion sur la langue, toutes ces exceptions. Donc, nous avons aussi soumis à différents stades de la rédaction nos documents à nos collègues francophones des autres institutions. Je n'ai pas cité le comité des régions et le comité économique et social, mais on a aussi travaillé en concertation avec eux et aussi avec nos collègues francophones de l'Office des publications à Luxembourg. Une équipe donc qui gère la version française du code de rédaction interinstitutionnel, et on a beaucoup échangé avec eux parce qu'on s'est évidemment aussi basé sur le code de rédaction interinstitutionnel. Notre but ici est de livrer un outil beaucoup plus pratique, beaucoup plus facilement accessible, mais ça reste pour nous la Bible et nous voulions à tout prix éviter les contradictions. Donc il y a eu un dialogue très très fructueux avec nos collègues de l'Office des publications.
Il y a un chapitre qui s'intitule Le langage inclusif. Et sincèrement, ça c'est le chapitre dont je me suis approché avec un peu de méfiance. Parce que dans beaucoup de pays, moi je connais mieux la situation en Allemagne, c'est l'ère préférée des idéologues de gender studies, postcolonial studies, donc des études plus ou moins controversées. Et bon, quand j'ai lu ce chapitre, j'ai été un petit peu soulagé parce que j'ai pas vu des excès, pas vu des extrêmes. Alors, quels ont été vos principes en rédigeant ce chapitre? Est-ce qu'il y a eu des disputes entre les rédacteurs?
Oui. Merci pour cette question. Merci pour la franchise avec laquelle vous l'abordez. C'était un chapitre passionnant et qui a demandé énormément de temps. Il n'y a pas eu vraiment de dispute. Il y a eu de longues discussions et nous avons plusieurs fois changé notre orientation et notre méthode de présentation des informations. Je dirais qu'il n'y a pas eu de dispute parce que, avant tout, l'idée est d'aménager dans notre langue institutionnelle un espace pour la diversité. Alors, reste à voir comment aménager cet espace de manière juridiquement correcte, de manière claire d'un point de vue communicationnel et de manière non conflictuelle. Parce que le but est de créer du vivre ensemble, pas de susciter la controverse ou de fonctionner par indignation, revendication. La langue est un outil symbolique très fort, mais c'est aussi un vecteur de communication. Et nous nous basons ici vraiment sur l'efficacité de la communication. Dans l'espace francophone, comme dans d'autres, comme dans tous les espaces linguistiques et culturels, c'est un objet de controverse vraiment très important, dont la presse se fait régulièrement l'écho. Certaines publications scolaires, universitaires sont attaquées parce qu'elles pratiquent l'écriture dite inclusive ou parce qu'elles ne pratiquent pas l'écriture inclusive. Nous avons voulu apporter des solutions pratiques et émettre des recommandations. Chacun, chacune reste libre d'écrire comme il l'entend et nous l'avons rappelé, que la lutte contre les discriminations est au cœur de l'action de l'Union européenne, au cœur des traités et au cœur d'un certain nombre de textes législatifs. Elle est aussi au cœur des stratégies récemment mises en avant par la Commission pour les prochaines années en faveur d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Mais ici, nous voulions, en tant que linguistes, proposer des règles pratiques applicable, parce qu'il nous est arrivé à tous et à toutes de lire des textes qui deviennent illisibles ou qui ont un effet aliénant ou ridicule parfois, qui déforce le message. Si vous voulez prôner une meilleure égalité entre les femmes et les hommes et que vous produisez un texte avec des créations lexicales, typographiques, acrobatique et que le texte devient difficile à lire, je pense que l'objectif est perdu. Donc ici, nous avons analysé sans tabou toutes les solutions que nous avons trouvées dans la littérature universitaire, dans la littérature militante. Et nous avons classé par ordre d'utilisation, par ordre de recommandation. Il y a des solutions qui sont juridiquement impeccables, dédoubler tout en disant les travailleurs et les travailleuses doivent être traités de la manière la plus efficace possible, etc. Ça peut être lourd, ce qui n'est pas nécessairement grave si le contexte s'y prête. Nous avons des solutions typographiques qui peuvent correspondre à des usages dans des formulaires, par exemple. Si vous avez retraité, entre parenthèses, le E, bon, dans un formulaire, ce n'est pas plus acrobatique ou horrible qu'un S entre parenthèses ou des choses comme ça. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans des messages sur des médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook, qui s'y prêtent bien. Mais en fait, nous avons consacré un chapitre à la rédaction claire en début du guide. Ça nous a aussi guidés, c'est-à-dire qu'on veut que le message passe clairement sur le fond et aussi sur la forme. La commission ne doit pas parler comme la société civile, comme une ONG, comme un syndicat, comme une organisation militante. La commission est une institution et doit aussi avoir un langage relativement formaliste et conservateur. Elle ne doit pas être nécessairement à la pointe de l'innovation linguistique. Ce n'est pas un défaut. C'est comme les dictionnaires n'enregistrent pas toujours tous les mots à la mode à un moment donné, il est admissible que la commission ait, je vais dire, un petit retard par rapport à certains cercles militants et ne suive pas toutes les modes. Nous avons aussi notre style maison et notre style de référence.
Merci beaucoup. Nous nous approchons de la fin de notre émission. Juste une dernière question. C'est ce guide, ce sont des recommandations. C'est donc pas contraignant. Juste pour prendre un exemple, moi j'étais un petit peu surpris de voir des tournures comme bon père de famille ou panier de la ménagère traitées ou qualifiées de sexistes. Pour moi, ce sont des métaphores et ils rendent la langue plus vivante. Alors, si on n'utilise pas ou si on continue à utiliser ces tournures quand même, est-ce que c'est traité donc par le réviseur, par exemple, comme faute parce que on n'a pas respecté ce guide?
Oui, effectivement, il y a toujours une marge de subjectivité. Il y a des mots qui correspondent à un style maison. Par exemple, nous utilisons plus le mot de norme que le mot standard. Alors que des tas d'entreprises, des tas de services juridiques, d'administration publique utilisent les standards. Mais chez nous, on parle de manière plus spontané, je ne suis pas sûr que ce soit spontané demain ou si c'est spontané ou appris, mais enfin, on va par exemple corriger une traduction freelance ou un collègue, un stagiaire qui écrit standard, on va redresser en norme. Nous, si c'est par exemple un freelance, nous sous-traitons de plus en plus, hein, donc ça correspond à peu près à 40% du volume des traductions, nous ne considérons pas qu'il s'agit de faute, il s'agit de préférence stylistique. Si nous n'avons pas le temps de réviser intégralement la traduction d'un collègue, par exemple, on va peut-être laisser passer ce genre de petites, ce qu'on pourrait appeler des petites imperfections, pour nous concentrer sur des choses qui ont un impact plus important. Mais ce à quoi nous voulons arriver avec ces recommandations, c'est amener les rédacteurs, les rédactrices à réfléchir à leur usage de la langue. Et il peut sans doute m'arriver d'utiliser une expression, je crois que vous les avez dit, en bon père de famille. C'est une expression qui existe toujours en droit civil belge. Elle n'existe plus en droit français. Donc c'est une expression qui n'est pas encore incorrecte en Belgique. Je pense qu'il y a des projets de loi pour la modifier, pour la remplacer simplement par raisonnable. Mais il est, de toute façon, si on cite par exemple une législation qui contient le terme, on sera forcé de l'utiliser. Si on cite de la jurisprudence qui contient le terme, on sera forcé de l'utiliser. Je viens, il n'y a pas longtemps, de souscrire un contrat chez mon banquier où ce terme figurait plusieurs fois. Je ne pense pas que ce terme doive être interdit et notre but n'est pas d'amener une censure de la langue. C'est peut-être réfléchir aux effets et éventuellement être prêt à recevoir une réaction si on utilise malgré tout ce terme. Ce que nous voulons, c'est proposer, quand nous recommandons de ne pas utiliser un terme, c'est nous assurer qu'il existe une alternative, une solution de rechange raisonnable et non équivoque dans le langage. Nous ne voulons pas créer un terme inconnu ou créer un terme qui paraîtrait trop bizarre ou qui attirerait inutilement l'attention. Si un terme existe, a un contenu précis et est utile, utilisons-le. Mais voilà, attirons l'attention et peut-être que ce sont des recommandations qui seront amenées à évoluer. En droit civil français, un bon père de famille n'existe plus. Il y a d'autres expressions comme le panier de la ménagère qui ont disparu. Les offices nationaux de statistiques en français parlent désormais de panier moyen. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est de montrer la richesse de la langue. En réalité, nous ne voulons certainement pas censurer, nous voulons encourager à exploiter toutes les ressources. Et pourquoi pas dire le panier du consommateur, par exemple. Renverser un peu la logique. C'est pas toujours l'homme qui fait les courses, ça peut aussi être la femme. Donc on pourrait avoir dans un même texte le panier de la ménagère et puis un peu plus loin, le panier du consommateur moyen. C'est juste un petit peu se rendre compte que la langue peut engendrer des usages stéréotypiques. Et donc, nous voulons
Eh bien, merci
proposer de la
beaucoup.
variété.
Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je vous invite encore une fois à étudier d'abord la page sur DGT.net consacrée à ce guide et puis évidemment le guide lui-même. Merci beaucoup et à la prochaine édition de Radio Linguistica. Merci.
Merci, Conrad.